et bienvenue sur Radio Campus Lorraine. Vous êtes bien au 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. Et vous êtes sur l'émission Politiquement Correct. Bonjour. Donc du coup, nous sommes accompagnés de Vincent aujourd'hui. Bonjour. Et moi, c'est Amélie. Et donc du coup, pour aujourd'hui, nous recevons pour une interview Audrey, qui fait partie du parti politique des animalistes. Donc on va commencer déjà par une petite chronique pour rappeler un petit peu le fonctionnement des présidentielles et la fonction politique du président. On va s'intéresser aux élections présidentielles qui arrivent. Donc on va s'intéresser au rôle du président. Faut savoir que c'est la constitution de la Ve République qui a été adoptée le 26 octobre 1958, qui lui confère un certain nombre de pouvoirs et de compétences qui ont évolué depuis son adoption sous le général de Gaulle. Donc c'est en 1958 que l'élection du président est devenue différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle est organisée pour élire un candidat pour un mandat de 7 ans par un collège électoral, c'est-à-dire un groupe de représentants composé de membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées de territoires d'outre-mer, ainsi que des représentants élus des conseils municipaux. En outre, ce ne sont pas directement les citoyens qui votent, mais leurs représentants. C'est en 1962, toujours sous la présidence de De Gaulle, qu'intervient le débat sur la désignation du président. La réforme de 1962 sera fondamentale, tant qu'elle révise la procédure d'élection du président et qu'elle s'approche un petit peu de celle que nous connaissons au suffrage universel direct. C'est un peu une révision fondamentale parce qu'elle permet aux citoyens de voter eux-mêmes, comme nous le savons aujourd'hui. Alors, le président république tente de devenir un petit peu à lui seul un représentant du peuple. En 2000, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, une loi est adoptée pour modifier la durée du mandat du président de 7 à 5 ans, comme on le sait aujourd'hui, ce qui correspond avec l'adaptation de la situation du président donc après la réforme de 1962. Son but, c'est de limiter le risque de cohabitation qui correspond à une différence de couleur politique entre le président et la majorité parlementaire et donc un peu de stabiliser la vie politique de la France. Donc la Constitution, dès 1958, à son article 5, entend le président comme celui qui veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Au contraire des républiques, la cinquième présidentialise son système, c'est-à-dire que les pouvoirs du président sont largement renforcés. Le rôle du président s'inscrit dans le système politique en lien avec les autres instances, comme particulièrement le gouvernement. De Gaulle disait d'ailleurs « Le gouvernement n'a pas de substance sans moi ». En fait, le président peut être considéré comme le chef du gouvernement. Il a d'abord une relation privilégiée avec le Premier ministre, qu'il désigne en toute liberté. Ensuite sont désignés les ministres, qui seront responsables de bureaux différents, choisis par le président. Le pouvoir du président et ses libertés sont tout de même largement contrebalancés par l'Assemblée nationale. À une échelle internationale, le président joue également un rôle important, notamment au niveau de l'Union européenne, particulièrement en ce moment, car la France préside le Conseil de l'Union européenne, institution phare de l'Union, dont le rôle est notamment de coordonner les politiques économiques générales des États membres, de gérer le pouvoir budgétaire avec le Parlement européen ou adopter la législation européenne. La France a donc pris la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2022. On remarquera que l'élection présidentielle se déroule au milieu de cette présidence. Ainsi, nous serons amenés à voter le 24 avril. On va commencer tout de suite l'interview avec Audrey. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Vous êtes prête ?
Oui, pas de souci.
Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ?
Comme vous l'avez dit, je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans. Et je suis donc au Parti Animaliste depuis très peu de temps, finalement, donc j'ai commencé en début d'année. Mais je suis dans la protection animale depuis j'ai 19-20 ans. À peu près, donc j'ai été bénévole dans plusieurs associations. Et aujourd'hui, je viens d'ouvrir ma propre association pour lutter contre la prolifération des chats errants dans le Saulnois où j'habite.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené particulièrement à vous appliquer dans ce parti politique ?
Bah après, je suis pas forcément intéressée par la politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la cause animale, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, et j'avoue que voilà, je suis d'accord avec ce que propose ce parti, parce que les politiques aujourd'hui laissent un peu tomber les animaux, et c'est important d'avoir un président, d'avoir un parti qui aide les animaux pour que ça aille mieux.
Pourquoi c'est vraiment important les animaux et pas du coup se rapprocher d'un autre parti qui serait aussi dans la défense des animaux comme un parti écologiste?
Bah, disons qu'ils n'ont pas forcément des choses sur lesquelles je vais être tout à fait d'accord. Après, il y a plein de candidats hein, qui vont proposer des choses pour la protection animale. Hein. Madame Le Pen le fait aussi, mais je trouve que c'est pas assez complet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont pas, que ce soit au niveau de l'abattage, au niveau rien que des animaux, les chiens et les chats. Les gens abandonnent, maltraitent et ne sont pas, enfin, pour moi en tout cas, ils ne sont pas suffisamment punis. C'est même de pire en pire, j'ai envie de dire, parce que les refuges sont saturés. Donc, faut vraiment compléter les mesures, vraiment aller au fond de la chose.
Quand vous dites compléter des mesures, est-ce que c'est du coup avant l'adoption? Est-ce qu'il y aurait de la prévention ou est-ce que c'est juste de la répression pour les personnes qui abandonneraient des chiens, des chats ou ce genre de choses?
Si c'était moi, personnellement, je commencerais déjà par donner un permis à certaines personnes. Il faudrait que les gens soient formés. Parce que je vois beaucoup de gens qui m'amènent, moi je garde des animaux, hein, et je vois beaucoup de gens qui m'amènent des animaux et qui font des erreurs, mais involontairement, mais des erreurs qui finalement peuvent être graves pour la santé de l'animal, comme de donner la pilule pour une chatte, ou enfin, voilà, il y a plein de choses, on ne se rend pas compte qu'on fait des erreurs, et je pense qu'il faut commencer dès le début, ou alors quand on voit les animaleries qui vendent des animaux, des lapins, je vois de plus en plus de lapins abandonnés. Mais les gens, ils prennent ça pour les enfants, ils se disent voilà, c'est un cadeau, puis finalement, ils oublient qu'il y a l'entretien, qu'il y a le coût. Donc, c'est vraiment dès le début, dès qu'on prend un animal, il faut vraiment que la personne elle ait conscience de ce qu'il attend.
D'accord, donc un permis pour ces animaux, est-ce qu'il y aurait un permis chien, un permis chat, ou est-ce que ça serait juste un permis pour les chiens, les chats, les lapins?
Ah, bah, si ce serait moi, j'en mettrais pour tous les animaux, parce que je vois tellement d'horreurs. Que voilà, faut vraiment creuser dans le fond des choses.
Mais est-ce qu'il faudrait pas aussi s'attaquer déjà aux structures qui proposent la vente de ces animaux-là?
Ah bah ça, d'ailleurs, il y a déjà des choses qui ont été faites hein, ces derniers mois. C'est vrai qu'il y a quand même une avancée, puisqu'aujourd'hui, on peut plus proposer de chien ou de chat à l'adoption d'animalerie. Et c'est très bien, mais on voit encore des rongeurs, on voit encore... Et quand on voit dans quel état, en plus, ils sont, sans critiquer les animaleries, mais des fois, je vois vraiment des choses... Ça fait peur.
Je vais revenir sur du coup un petit peu. Vous aviez parlé d'abattage. Quel est le discours que vous auriez par rapport à justement ces mauvaises conditions que vous présentiez plus tôt dans cette interview?
Alors, il est certain que le parti animaliste va plutôt préférer le végétarisme, que je comprends tout à fait. Moi-même, je suis végétarienne. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas aujourd'hui dire aux gens arrêtez de manger de la viande. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a été élevé comme ça. Donc pour certaines personnes, c'est très difficile. Mais déjà, rien qu'éviter la souffrance des animaux. Je sais qu'à une époque, il y avait une vidéo qui tournait sur un abattoir que je ne citerai pas, qui est pas très loin de chez nous. Mais moi, j'ai pas pu la regarder. Hein. Mais les personnes qui l'ont vue, mais ce qu'elles m'ont raconté, c'est horrible. Les bêtes, en fait, elles sont tuées. Enfin voilà, on devrait, comment dire, les endormir avant. Normalement, on devrait même le faire et ce n'est pas fait. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est juste pas possible. Il y a aussi les conditions de transport pour aller à l'abattoir. Tout mis bout à bout, voilà, il y a vraiment du travail.
Mais ça, c'est pas une justement des propositions qui sont faites par votre parti sur les conditions de mise à.
Enfin, on ne peut pas, comme je dis, on ne peut pas dire aux gens ne mangez plus de viande. Je sais que c'est compliqué déjà la réduire, c'est déjà beaucoup. Et puis effectivement, si déjà l'abattage peut être moins stressant, même si je sais que ça restera toujours tuer un animal, et bon, ça c'est un peu compliqué pour moi, mais ça sera déjà une énorme avancée.
D'accord. Ensuite, est-ce que vous auriez des manières un petit peu de sensibiliser aussi à la cause animale, parce que c'est vrai que réduire la consommation de viande, ce serait déjà bien, et partir sur Oui, une consommation plus responsable, ça pourrait déjà être une bonne avancée. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui sont proposés par votre parti pour sensibiliser un petit peu plus à la cause animale ?
Pour le moment, on se concentre vraiment sur la présidentielle. Donc voilà, on distribue des tracts, on communique beaucoup sur les réseaux. Donc d'ailleurs, les personnes qui sont intéressées peuvent nous retrouver sur les réseaux. Il y a un groupe pour le Grand Est sur lequel justement on va communiquer par rapport à tout ça. Donc pour le moment, on n'a pas encore vraiment travaillé sur ça. Moi, je viens d'arriver, donc j'ai pas non plus encore tout acquis. Mais effectivement, il y a des choses qui vont être mises en place. Mais déjà sur les réseaux, on peut nous trouver et on communique par rapport à tout ça.
Est-ce que vous prévoyez, puisque du coup vous parliez des présidentielles, mais les présidentielles vont être suivies par les législatives, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu du coup pour ces législatives ?
Oui, alors le parti animaliste, alors je ne sais pas où ils en sont, mais en tout cas il y a quelques semaines de ça, recherchait des candidats justement, parce qu'on veut essayer d'avoir des sièges. Donc il y a plusieurs candidats qui sont proposés dans plusieurs régions.
D'accord, très bien, merci. On va faire juste une petite... Une petite interlude musicale avant de continuer ce débat aussi passionnant. Est-ce que Amélie, tu peux nous présenter la musique puisque c'est toi qui les as choisies ?
Alors la musique là, ce sera Skip the Youth, Ghost. C'est une chanson que j'affectionne particulièrement. Time is running out.
In the morning, too hard to give, too hard to live. I can't stop dreaming. Do you know what I mean? You make up your angry eyes, you stay hidden, but I see you smile. I wanna stay inside your arms. I want to feel fine. 20 minutes and I'm ready. It's not raining today. I'm late and I must hurry. Welcome to my way. I'm sorry, it's not raining today. Kill the light, I can see.
Time is running out. You're keeping me alive. I get what it means. You have to survive. Time is running out. You're keeping me alive. I get what it means. You have to survive.
You know I'm on the road. We are playing tonight. Ever since this morning, your kiss is on my skin. What's your game tonight? Will you talk to me? You know I need you to make it real. What they're saying to me, I gotta smile, smile, smile. Forget, forget, forget it, I won't obey. Promise on my words, leave the gun outside. I got the words, let them blow your mind. It's a lie, lie, lie. I get what the story will be. You gotta try, try, try. Escape, escape, escape your miseries. Stop the motion, I got the solution. Wake up, focus, sleep and get free.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine, au 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiocampuslorraine.com. Nous sommes sur l'émission Politiquement Correct, en interview avec Audrey pour le Parti Animaliste. Donc ce qui a été dit juste avant, nous avons un petit peu abordé le sujet de la cause animale. la maltraitance et sur le fait qu'il faudrait peut-être un petit peu plus sensibiliser sur le sujet et de l'impact que ça peut avoir. Maintenant, moi j'aurais une question. Je trouvais ça assez intriguant le fait que le parti se passe vraiment principalement que sur la sensibilisation animale. Et j'aurais aimé savoir si le parti à l'avenir voudrait un petit peu se développer aussi un petit peu, un peu plus sur l'économie, ou si vous resteriez vraiment sur la sensibilisation animale.
En fait, c'est un parti qui est vraiment basé sur l'animal. Donc oui, forcément, si notre candidate avait la chance d'être élue, il y aura aussi des mesures qui seront mises en place qui n'auront rien à voir avec les animaux, parce que un président doit penser à tout. On ne peut pas seulement parler de la cause animale. Donc oui, forcément, si elle était élue, il y aurait différentes mesures qui seront mises en place, tout comme les précédents qui se sont succédés.
Mais non, du coup, là, pour une première, pour les premières années, c'est plus pour se montrer, dire qu'on est là, et puis au fur et à mesure, mener un petit peu à développer le parti.
Voilà, c'est ça. Et puis là, surtout, c'est montrer qu'on est là. Et même si elle ne remporte pas, le plus important, c'est d'inciter les gens à s'intéresser plus à l'animal, montrer aussi aux autres partis, à celui qui passerait, que c'est important, que c'est une cause aujourd'hui qui est quand même défendue par beaucoup de Français, et en espérant que ça porte ses fruits.
Et est-ce que vous avez quelques mesures qui pourraient aller justement dans le sens des étudiants, puisque on est sur Radio Campus Lorraine, on est principalement écouté par des étudiants. Qu'est-ce que vous pourriez proposer dans ce sens-là ?
Alors là, j'avoue que sur ça, on n'a pas, nous, beaucoup d'informations en tant que correspondants. Donc là-dessus, je ne peux pas vraiment vous renseigner.
Est-ce qu'il y aurait des mesures par rapport à la restauration universitaire ou même à la restauration scolaire ?
Alors oui, il est très probable qu'elle envisage de faire des choses, notamment par rapport à la consommation de viande, comme de favoriser les menus végétariens ou les menus végans. Je sais que je connais des personnes qui mangent à la cantine et qui me disent que c'est parfois mal interprété quand elles sont végétariennes.
Comment ça, mal interprété ? Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ?
Après, moi, je ne l'ai pas connu. Hein. Je n'étais pas végétarienne à l'époque, puis je ne mangeais pas à la cantine. Mais j'ai une personne qui m'a dit assez récemment que, limite, on avait tendance un peu à la critiquer, à se moquer d'elle par derrière, parce qu'elle demandait du sans viande. Et j'avoue que moi, en tout cas, dans des restaurants où j'ai pu aller, c'est aussi quelque chose que j'ai constaté, c'est que quand on dit « je ne mange pas de viande », même si je dis juste « vous m'enlevez le jambon du sandwich », je vois les personnes qui rient un peu sous cap, c'est un peu gênant, je dirais.
Alors, vous avez parlé de végétarien, de vegan. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs la différence entre les deux termes ?
Alors, le végétarien ne mange pas de viande. Par contre, le vegan, lui, ne mangera rien qui vient de l'animal. Donc, ça va être aussi bien des produits laitiers que des œufs, que de la viande, du poisson, vraiment rien qui n'est trait à l'animal.
Je rajouterai même, pour compléter cette définition, qui est produit de l'animal, donc ça va aussi inclure les sacs en cuir et tous les objets matériels qui peuvent être créés depuis un animal.
Ça sera aussi au niveau des produits esthétiques aussi.
Oui, aussi. C'est juste pour préciser et pour être sûr que la définition soit bien comprise par nos auditeurs. Est-ce que vous voulez du coup imposer aux restaurants des menus qui soient végétariens et véganes ?
Alors, il me semble que j'ai entendu parler de choses comme ça, oui. D'ailleurs, je pense que ce serait pas si mal que les jeunes qui soient végétariens et véganes, et il y en a de plus en plus, puissent tout simplement manger ce qu'ils veulent, et puis ils assument, quoi. Enfin, c'est pas une honte, c'est un choix.
Est-ce que c'est pas paradoxal de demander justement à la chaîne de restaurants La Pataterie ou le bouche à oreille, qui sont des restaurants à base de cuisine de fromage, de demander de faire un plat typiquement vegan?
Je ne sais pas comment ils le prendraient honnêtement, mais je sais qu'on est de nombreux végétariens à ne pas aller au restaurant à cause de ça. Enfin, moi, c'est un gros problème quand je vais au resto, c'est que bien souvent, je leur dis « mais je ne mange pas ça, je mange quoi ?» Et j'apprécierais que les restaurants nous proposent un menu végétarien un bon menu végétarien, parce que des fois, quand on demande du végétarien, c'est pas très mangeable. Mais c'est vrai que, en tout cas, on est de plus en plus nombreux et j'en connais plein qui vont pas au resto. Moi, quand j'y vais, c'est toujours un parcours du combattant pour avoir à manger.
Il faut se préparer, anticiper pour pouvoir manger à l'extérieur de chez soi quand on est végane ou végétarien.
Je pense que les véganes, c'est plus compliqué. Moi, je suis juste végétarienne, mais je sais qu'il y a des restaurants, par exemple, j'irai pas parce que je sais que j'aurai rien à manger. Quand mon copain me dit on va manger à tel endroit, bah, il y en a, je lui dirai suite, stop. J'aime bien tout ce qui est restaurant buffet parce que du coup, je mange pas la viande. Mais par exemple, bah, la pataterie, ça va, je crois qu'il y a quand même des choses. Mais il y a des restaurants où il y a que de la viande, moi, je peux pas y aller. Hein. C'est pas possible.
Mais du coup, ce serait pas intéressant aussi d'amener des... Parce qu'il y a des chaînes, maintenant qui commencent à devenir un peu véganes et qui commencent à se développer.
Oui, il semble qu'il y a même un restaurant sur Nancy, j'ai entendu parler, qui faisait que du végétarien.
D'accord. Donc ce serait peut-être bien d'amener aussi des restaurants à se créer juste sur le plan végétarien ou végan et d'un peu rendre ça... un peu partout en France, de le développer un peu.
Puis je pense qu'il gagnerait en plus des clients, parce qu'il y a de plus en plus de végétariens, sur les mariages, on en voit de plus en plus. Moi, j'interviens aussi sur des mariages, et honnêtement, il gagnerait des clients, comme ça.
Mais, en dehors des restaurants, ce serait pas... c'est vrai que tout ce qui est alimentation végane et végétarien, ça peut faire un peu peur au premier abord, dans la mesure où... c'est pas une habitude qu'on a. Est-ce que ce serait pas intéressant aussi de sensibiliser un petit peu à ce mode d'alimentation là et puis prouver qu'on peut manger vegan ou végétarien et que ça reste tout aussi bien pour le corps?
Ah oui, effectivement. Bah, il y a des médecins qui commencent à l'accepter, mais il y a des fois des médecins qui me disent mais tu vas être malade, ou même des gens, sans être parlé de médecins, des gens qui me disent mais si t'es tout le temps malade, c'est parce que t'es végétarienne, j'ai mis n'importe quoi. Parce qu'en réalité, la viande rouge, elle décalcifie les os. En réalité, il faudrait pas en manger tous les jours. C'est pas bon du tout. Donc, il y a effectivement plein de choses aussi, rien que d'un point de vue médical, où ne pas manger de viande, c'est pas... Enfin, moi, je suis pas plus malade qu'une autre.
Alors, je suis personnellement flexitarien, donc je vais aller dans votre sens en disant que effectivement on mange trop de viande rouge. Malheureusement, moi, à l'inverse, je me vois pas ne pas manger de viande. Alors, ça remonte à très longtemps et je suis pas du tout sûr des chiffres, mais il semblerait que le corps humain ait besoin de 20 grammes de protéines animales, enfin issues de produits animaux par jour. Donc clairement, quand on prend un steak, les steaks c'est généralement entre 100 et 150 grammes. C'est beaucoup plus que 20 grammes, quoi.
Oui. Après, celui qui est pas végan peut compenser par exemple avec des œufs.
Tout à fait.
Bon, moi, je sais que du coup, je mange des œufs. Je suis pas végane et je crois que j'y arriverai jamais. Par contre, ça, c'est un truc, c'est juste pas possible. Mais du coup, on peut vraiment compenser. Donc, je connais des gens qui sont végétariens à 100% et qui sont pas plus malades. Et voilà. Mais bon, déjà réduire sa consommation, c'est déjà énorme. C'est déjà un bon pas. Faire attention à la viande qu'on consomme.
Faire attention à la viande qu'on consomme. Comment on peut faire du coup attention dans ce sujet-là? Comment on peut faire attention, je vais même étendre un petit peu le sujet, à tout simplement toute la nourriture qu'on peut acheter en magasin? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont faites pour pouvoir manger mieux?
Alors oui, je crois que dans le parti, il y a... Alors, j'ai pas les propositions en tête, mais effectivement, elle en parle justement. Essayer de prendre le plus possible des produits français. Déjà, c'est important qu'on ait vraiment la traçabilité du produit, etc. Donc ça, au niveau de notre partie, il y a effectivement des propositions qui sont faites.
Et je me permets aussi un petit rappel au niveau de nos auditeurs. Ce n'est pas parce que c'est écrit « cuisiner en France » que la viande est d'origine française.
Tout à fait.
Amélie, est-ce que tu as une petite question encore sur ce sujet?
Moi, ce serait plus au niveau, la consommation, enfin, de ce que j'en entends, la consommation végane et végétarienne, les plaintes aussi qu'il y a, surtout, enfin, j'entends ça surtout au niveau des étudiants, c'est le prix au final qui, bah, au final, les courses coûtent un petit peu cher si on veut consommer bio, si on veut consommer responsable. Est-ce que ce serait pas intéressant aussi de voir pour avec les marques ou je sais pas, enfin, essayer de régler un petit peu ce problème-là ou au moins ces tabous-là, parce que ça, c'est pas forcément excessif. Mais amener les, enfin, ce serait intéressant d'amener. Est-ce que ce serait intéressant d'amener les jeunes un petit peu à s'intéresser à ces types de consommation, mais même au quotidien, parce que là on parlait beaucoup de restaurants, mais même dans la consommation au quotidien, enfin, pour les courses au quotidien.
J'ai pas trop bien entendu la fin.
Pardon. Non mais est-ce que ce serait pas aussi intéressant au quotidien d'amener les jeunes ou là parce que là on parle sur nos auditeurs, mais même les Français à oui, consommer mieux et sur le long terme, mais dans des magasins un peu plus responsables.
Bah, c'est sûr qu'en tout cas de notre partie prône justement des produits français. Enfin, oui, c'est important de consommer mieux, même pour notre santé, et puis aussi pour nos petits agriculteurs, simplement notre économie. Manger français, manger mieux, et dans des magasins effectivement des petits commerces. Par exemple, moi j'habite la campagne, on a des petits commerces. Bah, on a énormément de producteurs chez nous, de producteurs locaux. Donc, je sais que depuis quelque temps, je prends... ça a malheureusement un coût pour moi, mais j'aime bien prendre chez les petits producteurs locaux. Quitte à manger moins de ce type de produit, je me dis que c'est pas plus mal. On fait travailler l'économie.
Et comment, du coup, on gère économiquement derrière? Parce que vous parlez justement d'avoir un coût un petit peu supérieur, mais du coup, ça fait une quantité moindre à manger. Comment on rétablit la balance budgétaire?
Après, moi, personnellement, je suis pas une grosse mangeuse, donc j'arrive à peu près, disons que je vais peut-être faire un repas où je vais manger vraiment un bon truc, et puis le soir, je vais prendre plus léger. Après, bon, j'ai pas d'enfant non plus, hein, mais... par exemple, je vois des gens qui mangent de la viande, il y en a de plus en plus qui me disent aujourd'hui, ils préfèrent prendre chez un producteur, chez nous ça se fait de plus en plus, que de prendre de la viande en supermarché, parce que déjà on a plus, on sait d'où vient la viande, etc. Mais ils en mangent moins. Par exemple, ils vont manger 3 fois de la viande par semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit ça.
Est-ce que vous aurez quelques adresses? Alors on parle principalement de viande, mais pour les producteurs locaux, que ça soit viande ou autres produits, hein, ça peut être des fruits, des légumes, des yaourts, du fromage. Est-ce que vous avez quelques adresses?
Moi, dans le Saulnois, on a pas mal de petits producteurs. Il y en a vraiment un paquet. Je sais qu'il y a, un primeur, enfin, qui fait des légumes qui s'est installé sur Dieuze. Après, il y a énormément de fermes chez nous aussi qui proposent leurs produits. Je sais que dans le 54, il y a la Croix du Jard d'ailleurs qui s'est installée à Séchamps, qui fait pas mal aussi de produits locaux. J'aime bien aller dans leur magasin. Donc après, je pense qu'il y en a partout, hein. Il y a plein d'enseignes maintenant qui s'ouvrent dans ce but-là.
Très bien, on va de nouveau faire une petite interlude musicale dans cette discussion qui est toujours aussi riche. Et qu'est-ce qu'on va écouter, Amélie? Ah, tu n'as pas la liste. Tu n'as pas la liste. Alors moi, du coup, je te propose Galère d'un pirate, les 3 fromages, tout de suite sur Radio Campus Lorraine.
J'aime passer mes journées devant mon ordinateur. Mon meilleur ami est un des plus grands navigateurs. Je voyage en visitant les plus beaux sites du monde. Tel un geek solitaire à la pensée vagabonde. Bravant les affronts de ma mère en furie. Qui me dit
viens manger petit con, trop un pain est servi.
Elle comprendra jamais qu'il est interdit d'arrêter un joueur en plein Call of Duty. D'arrêter un joueur en plein Call of Duty. Charge illégalement. Les virus c'est la galère. Les virus c'est la galère. De nombreux trésors en cellule évidemment. Sans réseau c'est la galère. Sans réseau c'est la galère. Hey.
récit d'aventure du Seigneur des Anneaux. Père Noël en a une dure. Le sang il le fait trois navigue dans ma collection. Ballon de Metallica à la PO du Roi Lion. Je chatte de lui des mois, mais pas une gonzesse à l'horizon. C'est le calme plat, j'ai l'impression de toucher le fond. Je garde encore espoir d'un jour trouver la bonne. Même si je dois m'inscrire sur adopteunmec.com. Même si je dois m'inscrire sur adopteunmec.com. Sans honte et sans remords, je télécharge illégalement. Les virus c'est la galère, les virus c'est la galère. De nombreux trésors en streaming évidemment. Sans réseau c'est la galère, sans réseau c'est la galère.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine, donc au 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiocampuslorraine.com. Vous êtes sur l'émission Politiquement Correct et nous sommes en interview avec Audrey. Juste avant, on a parlé un petit peu de tout ce qui est la condition animale. Là, dernièrement, on a aussi également évoqué... le végétarisme et le véganisme, et quelles sont les possibilités qu'on a vis-à-vis de ces deux modes alimentaires. Moi, j'avais une question aussi, éventuellement. Juste avant, on a un peu parlé des mesures qu'on pouvait prendre au niveau des animaux. Vous aviez parlé des transports d'animaux. Actuellement, dans quelles conditions sont transportés les animaux et qu'est-ce que votre parti propose ou quels sont les moyens de transport qui amélioreraient les conditions des animaux?
Je sais que j'avais entendu parler d'une histoire où les animaux étaient... Bon, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand il fait trop chaud, on n'a quand même pas le droit de rouler avec les animaux. Enfin, il y a quand même des choses qui sont mises en place. Mais par exemple, moi, je sais que je les vois passer, ils sont tous entassés là-dedans. Enfin, voilà, déjà, ça, c'est pas génial. Le stress de l'animal pendant le voyage, même la façon dont ils les font monter. Enfin, moi, à la campagne, je les vois des fois monter dans le camion. Les vaches, elles se prennent des coups de fric, hein, pour être honnête, ça, je le vois. Que ce soit du moment où ils montent dans le camion, au moment où ils arrivent, où on les matraque aussi, parce que ça se voit aussi, il y a déjà un gros stress. Donc, il y a vraiment tout qui est amélioré. Donc, c'est déjà bien qu'aujourd'hui, pendant la canicule, on n'ait pas le droit de rouler avec les bêtes. Ça, c'est déjà très bien. Mais le respect de l'animal n'y est pas de toute façon. Hein. Bien souvent, les chauffeurs, ils pensent juste à faire leur travail et pas à l'animal qu'il y a dans le camion.
Comment on pourrait améliorer du coup ce transport des animaux?
Je pense déjà par rapport à la durée, éviter de les emmener trop loin. Assurer peut-être un petit peu plus de place dans les camions, parce que moi je les vois tout le temps entassés et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis déjà que quand elles montent dans le camion, on évite de les matraquer comme ça. C'est un truc que j'ai horreur de ça. C'est juste pas possible. Donc après, oui, c'est sûr qu'elles ont pas envie d'y aller, mais elles savent où elles vont. Hein. Elles sont loin d'être idiotes. Hein. D'ailleurs, on m'a toujours dit que quand le camion venait, on les entendait hurler. Donc voilà.
Pour les histoires de camions, le fait d'entasser ces animaux, est-ce que ça serait pas justement plus pour leur sécurité, puisque contrairement à nous, on n'a pas ces animaux-là n'ont pas de ceinture de sécurité, donc en cas de choc ou de freinage un petit peu violent, ça peut éventuellement blesser les bêtes. Donc comment on peut, essayer de donner un petit peu plus d'espace tout en continuant à essayer de les sécuriser en termes de blessure. Je ne sais pas si la question est...
C'est au niveau de l'équipement des remorques. Il faut savoir que de toute façon, déjà, les chauffeurs, pour pouvoir rouler des animaux, ils ont un diplôme, parce qu'il faut un certificat de capacité pour pouvoir conduire avec des animaux dans la remorque. Donc déjà, ils apprennent toutes les règles de sécurité. Et après, je connais pas vraiment la remorque, je m'y intéresse pas. Pour moi, c'est des assassins.
Après, est-ce qu'il y aurait pas, conditions, enfin, parce que là on parle beaucoup d'en France, mais est-ce que aussi au niveau européen, est-ce qu'on pourrait pas mettre des conditions européennes en place concernant le bien-être animal et puis comme on disait là sur les transports, sur leurs conditions de vie avant consommation ou non en général.
Ah bah c'est sûr que bon, au niveau de l'Europe, je sais pas vraiment où ça en est. En tout cas au niveau des animaux du bétail, c'est vrai que je me rends pas vraiment compte, mais par contre ce que je sais c'est que sans parler de transport, au niveau du chien et du chat, en Allemagne, les gens ils réagissent complètement différemment que nous. Je me rappelle une fois j'étais en course en Allemagne et il y a un chien qui s'était enfui et il y avait 10 personnes qui étaient là à essayer de le récupérer. Que chez nous ici, quand il y a un chien, si au milieu de la route, bizarrement personne s'arrête. Donc je pense que déjà les mentalités sont différentes dans d'autres pays de l'Union européenne et ça serait bien aussi que l'on prenne exemple sur ces pays-là. Je crois que c'est la Belgique récemment qui a rendu obligatoire la stérilisation des chats, pour tous les chats. Et ça c'est pareil si on le faisait en France, mais ça serait génial.
Alors effectivement, je confirme pour la Belgique, donc il y a bien une obligation de stérilisation pour tous les chats, alors à l'exception d'éleveurs et de certains, voilà. Enfin, sous certaines conditions, puisque maintenant pour être éleveur en Belgique, il faut avoir, alors je sais plus si c'est un diplôme ou si c'est un certificat de capacité, c'est une formation qui est fournie, de telle sorte à ce qu'ils soient sûrs, et donc il y a seules les personnes qui ont cette formation ont le droit de posséder, mais ça se limite pas qu'aux chiens, aux chats, ça se limite, enfin il y a aussi les chiens avec.
Alors déjà pour les chiens en France c'est déjà cadré, hein. Alors si je me trompe pas, parce que moi je l'ai fait cette formation, donc chez nous en France c'est la cassette qu'il faut avoir pour être éleveur. Et alors, si je me trompe pas, on a droit qu'à une portée par an quand on n'est pas professionnel. Mais bon, pour moi, une portée par an, c'est déjà trop. Vu le nombre d'animaux abandonnés, enfin, il y a un moment, faut dire stop. Et pour les chats, c'est encore pire. Les chats, on n'en parle même pas. C'est une vraie catastrophe.
Oui, effectivement, il y a des problèmes. Je vais citer la ville de Lironville, qui est pas très loin de Nancy, au nord de Toul, pour être plus précis. Qui est c'est un tout petit village qui ont des problèmes justement avec des chats errants qui ne sont pas castrés. Comment on gère du coup ce genre de situation où on se retrouve avec beaucoup de chats dans la ville?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les maires ont l'obligation normalement de stériliser dans leur commune. C'est écrit dans le code rural. Alors, nous, particuliers, on n'a pas l'obligation de stériliser notre animal. Par contre, les communes, elles ont l'obligation de gérer leur population. Alors, moi, actuellement, c'est ce que je mets en place dans mes communes, justement, avec mon asso. Et on est confronté à des maires qui ne veulent rien faire. Ça, c'est un gros problème. Mais normalement, c'est obligatoire. Alors, comment on va régler ça? Tout simplement, on va mettre en place des campagnes de stérilisation dans les communes. On va attraper les chats errants. On va les stériliser. Si les minettes sont gestantes, bon après, il y en a qui ont avorté, d'autres qui gardent les petits. Ça, c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, parce que chaque association a son truc. Et comme ça, on y arrivera. Mais il faut vraiment que les maires comprennent que, oui, ils n'aiment peut-être pas les chats, d'accord? Mais les chats, ça engendre des nuisances. Et si on veut que ces nuisances, elles s'arrêtent, il faut qu'on arrête d'avoir des petits, parce qu'une femelle, alors si je ne me trompe pas, on est à 12 000 chatons dans la vie d'une femelle. C'est énorme.
Oui, je confirme que les communes ne font rien. J'ai été amenée à personnellement devoir stériliser 3 chats vivant dans mon jardin parce que le chat du voisin avait fait une portée dedans et on avait été voir pour la commune pour essayer de voir si on pouvait pas avoir des aides pour financer la stérilisation et la castration des chats. Et finalement, on s'est retrouvé à devoir financer ça nous-mêmes, ce qui nous a pas dérangé, mais même la mère a fini finalement par décéder à cause des portées. Nous, on était à deux doigts de la castrer aussi, mais bon, vu que c'était, elle avait déjà un propriétaire, on pouvait pas forcément trop le faire.
Ouais, non, mais voilà, c'est pas normal que. Et chez moi, j'en vois plein, parce que moi, dans mon village, on a une 60aine de chats errants. Et donc, quasiment, le Saulnois comporte 128 communes, et dans quasiment toutes les communes, on a le problème. Il y a quelques communes qui ont fait le nécessaire, mais bon, c'est minime. Et c'est quand même. Enfin, moi, je trouve pas normal que ce soit des particuliers qui parfois même se privent de manger. Je vois beaucoup de retraités qui viennent nous voir en pleurs parce qu'ils ne savent plus comment gérer, parce qu'ils n'ont pas les moyens de stériliser tous ces chats alors qu'ils leur donnent déjà à manger. C'est pas avec là, ce qu'on vit aujourd'hui, avec les difficultés, j'estime que c'est pas normal qu'on en soit là. Il faut vraiment, d'ailleurs, j'appelle vraiment à tous les maires de faire le nécessaire parce que, enfin là, c'est juste plus possible, quoi. Moi, j'ai des gens au téléphone depuis une semaine, la mise en pleurs. J'avais une dame en larmes l'autre jour parce qu'elle savait plus comment gérer.
Et qui pourrait payer ce genre de stérilisation? Alors, je me souviens qu'il y a aussi la SPA qui est assez présente, enfin tout du moins dans la région de Nancy, qui accepte pour des chats errants de prendre une partie, en tout cas les stérilisations. Qui serait amené à payer en fait pour ces stérilisations? Parce qu'il faut bien rémunérer les vétérinaires.
Alors, quand on fait une campagne de stérilisation dans une commune, donc quand le maire signe une convention, en sachant que nous, association, on n'a pas le droit d'intervenir si on n'a pas l'accord du maire. Parce que le chat errant appartient à la commune, c'est dans la loi. Donc quand c'est comme ça, l'association paye une partie et la commune subventionne l'autre partie. Donc en fonction des communes, là, ça va être différent, en fonction des assos aussi. Le budget va pas être forcément le même, ça dépend du nombre d'habitants. Mais c'est à la charge et de la commune et de l'association. Même quand on passe par Brigitte Bardot. Par contre, les particuliers qui ne payent pas d'impôts peuvent demander des aides à la SPA France. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais il ne faut pas hésiter à faire la demande. Moi, je l'ai déjà fait sur le site internet. Vous demandez le dossier et vous pouvez avoir 50%. 50%, c'est toujours sur 5 stérilisations à l'année.
Est-ce qu'il y a aussi des mesures dans ce sens-là pour les chiens?
Oui, il y a des choses aussi qui vont être mises en place, déjà par rapport à tous ces chats errants, rendre la stérilisation obligatoire. Je sais que beaucoup d'associations, ça le demande. Et là, clairement, voilà, pour le chien également, hein, il faut vraiment qu'on arrive à... Les particuliers qui font des portées, c'est pas tout à fait normal. Donc, il y a pas mal aussi de petites choses à faire. Et puis, les animaleries qui continuent à vendre des lapins, des rongeurs, ça, c'est pas possible non plus. Donc voilà, il y a pas mal de mesures aussi qui vont être en effet mises en place si notre candidate venait à être élue.
J'ai aussi des questions parce qu'on parle beaucoup d'animaux, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'animaux de compagnie, tout ce qui est chien, chat, rongeur, mais j'ai aussi la question des nouveaux animaux de compagnie, tout ce qui est reptiles, rats ou autres.
Il y a les tortues aussi.
Aussi tortues, oui, non mais il y a beaucoup maintenant de nouveaux animaux de compagnie qu'on voit qui sont amenés à vivre dans les familles, enfin... Mais comme les araignées, les insectes aussi.
Alors,
les araignées.
Je vais juste faire un point parce qu'en termes de NAC, est sous la dénomination justement les lapins et les rats aussi.
D'accord. Ok. Et donc du coup, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles aussi, des lois, enfin ou en tout cas de la prévention faite un petit peu aussi sur ces nouveaux animaux qui sont un peu vendus comme ça et alors que il faudrait quand même, enfin je vois pour le cas du serpent, enfin il faut quand même savoir un petit peu son alimentation, comment ça se gère.
Qui sont surtout très mal connus.
Oui, en plus oui.
Ah, il me semble qu'il y a déjà... Alors, par contre, je ne sais plus c'est lesquels de NAC, mais normalement, il y a certains NAC où il y a une obligation de posséder la cassette, par contre. Mais je ne sais plus c'est lesquels. Mais je sais qu'il y en a où il faut absolument passer la cassette, donc le fameux certificat, avant de prendre ces animaux, parce que justement, il faut des connaissances. Et moi, personnellement, j'avoue que j'y connais rien. C'est autant chat, lapin, on peut se demander tout ce qu'on veut, mais là, j'y connais rien.
D'accord.
Je les laisse où ils sont, ces animaux. Je trouve qu'ils sont très bien dehors, moi.
Oui, j'avoue que j'apprécierais pas forcément d'avoir un serpent chez moi. Mais plaisir de chacun quand ils s'en occupent bien. Après, est-ce qu'il y aurait des sites ou des associations à contacter si on a des questions sur la prévention aux animaux ou autre? Est-ce que vous auriez des sites à nous proposer?
Pour? J'ai mal compris.
Éventuellement, je sais pas si on se pose des questions. Enfin, je vois, il y a beaucoup de sites 30 millions d'amis qui se gèrent un petit peu, qui permet à qui on envoie d'envoyer un mail si on a des questions sur les animaux, sur de la prévention, si on a des cas de maltraitance. Est-ce qu'il y aurait d'autres sites ou associations qu'on pourrait contacter éventuellement si on a des petits soucis?
Alors, après, il y a plein d'associations où il y a effectivement 30 millions d'amis. Il y a aussi Brigitte Bardot qui peut intervenir pour que ce soit des aides financières auprès des propriétaires qui se retrouvent avec des soins vétérinaires à payer, qui sont dans le besoin. Ça peut être pour des campagnes de stérilisation. Il y a la SPA France. Donc attention, je parle bien SPA France, pas la SPA, donc sur Nancy, c'est Belaine et Amance. Ça ne dépend pas de la SPA France, c'est un refuge privé, ils n'ont aucune subvention. Mais la SPA France propose des aides financières donc pour les stérilisations également, pour les soins des animaux. Et s'il y a des problèmes de maltraitance, on est confronté à une maltraitance, on peut contacter l'association Brigitte Bardot. On peut aussi contacter l'association Stéphane Lamar, qui va envoyer un enquêteur. Et dans ce cas, une enquête va être faite. Et si nécessaire, on va saisir l'animal.
Très bien, on va faire de nouveau une petite interlude musicale. Puisqu'il est 18h45 sur Radio Campus Lorraine. Et ma chère Amélie, qu'as-tu choisi comme musique?
Alors, pour cette pause musicale, on aura le droit à Taye Verdes, Stuck in the Middle, avec un bel accent anglais.
You know what she said to me? She said, you're a player, aren't you? And I bet you got hoes. I said, you don't know me like that. I just go with the flow. She said, you can't fool me like that. You're gonna leave me on red. I said, why don't you try me on out? I know you wanna be friends. But friends turn into sleepovers, and sleepovers turn into love. Love turns into jealousy. Now we both fucked up. Stuck in the middle of lovers and friends, and we're losing every part of the benefits. You hurt me more than I ever knew, but it's shitty 'cause I'm doing the same to you. She said, are we exclusive or not? I said, what do you wanna do? Seems like you love me a lot. She said, can we stop the joking and take me seriously? I said, I'll try my very best, but we'll have to wait and see.
Let's wait and see.
'Cause talks turn into sleepless nights, and sleepless nights turn into love.
Turn into love.
Love turns into impatience. Now we both fucked up.
Hey, hey.
Stuck in the middle of lovers and friends, and we're losing every part of the benefits. You hurt me more than I ever knew, but it's shitty 'cause I'm doing the same to you. Stuck in the middle. Stuck in the middle with you. Turning and making up, and making up turns into love.
Turns into love.
Love turns into forever.
Forever.
And that scares both of us.
Bonjour, vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine au 99.6 à Nancy et 106.1 à Metz. Vous pouvez nous retrouver sur www.radiocampuslorraine.com. Vous êtes sur l'émission Politiquement Correcte et nous sommes en interview avec Audrey, représentante du Parti Animaliste. Juste avant, donc, on a un petit peu parlé donc, de tout ce qui était la condition des animaux, le végétarisme et le véganisme, les conditions des, des animaux domestiques et comment arriver à gérer tout ça. Du coup, moi, j'aurais une petite question aussi. Dans le programme du Parti Animaliste, il y a eu il a été abordé la question de la chasse. Et donc, du coup, est-ce que ce serait complètement abolir la chasse ou la réglementer dans certains territoires ou... Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Bah, après, abolir complètement la chasse, bon, les animalistes le voudraient. Mais en soi, je pense que dans l'immédiat, ça va être très compliqué parce que déjà, les chasseurs ne vont pas être du tout d'accord. Je pense que ça va être mal interprété. Donc déjà, vraiment la réguler avant d'envisager de l'abolir. Parce que voilà, si du jour au lendemain, on vous dit on arrête de chasser, mais je pense que...
Ça va être pire que le pass sanitaire, cette histoire.
Également, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est l'agrainage ? Est-ce que vous savez ou pas ?
Non, ça après c'est
dans,
pas...
Parce que dans, le programme, il expliquait donc, qu'il y aurait une interdiction de l'agrainage, donc, qui est le fait qu'on nourrisse les sangliers en pleine nature pour qu'on retrouve un troupeau sur des sites particuliers, et donc du coup interdire ces zones-là pour faciliter la chasse. Donc après...
Alors après, pour les sangliers, il y a aussi une question de régulation. Mes grands-parents habitent du côté de Chavigny, Neuve-Maison et Chaligny, juste à côté de la forêt de haies, et ça représente quand même une belle nuisance, les sangliers, dans ce coin-là. Quoi.
Ah, c'est sûr qu'il y a des endroits où il y en a beaucoup. Bah, nous, je sais que chez nous, ils se rapprochent des habitations. J'ai une amie, elle les a retrouvés dans le champ en face de chez elle. Hein.
Alors du coup, pour l'égrenage, est-ce qu'on interdit, est-ce qu'on autorise, comment on peut gérer ce genre de choses ?
Alors après, sur tout ça, c'est vrai que j'ai pas vraiment encore, je maîtrise pas vraiment forcément le sujet. Donc voilà, pour moi en tout cas, je sais qu'au niveau de la chasse, je suis pas pour, mais en même temps, je sais que si on l'interdit déjà, c'est pas possible, du jour au lendemain, ça sera pas possible. Je pense qu'il faut prendre le temps déjà, mettre en place différentes régulations à plusieurs niveaux. Et puis, bah, par la suite, on verra si on peut l'interdire.
Okay. Et j'aurais une question aussi sur la question des laboratoires. On sait donc que les laboratoires utilisent des animaux pour...
De l'expérimentation.
C'est ça, de l'expérimentation. Mm-hmm. Est-ce que vous seriez amené, enfin, le parti serait amené du coup à totalement arrêter l'exploitation animale dans les laboratoires ou amener quand même ces laboratoires à arrêter au fur et à mesure du temps l'exploitation des animaux ?
Bah, il est certain qu'au jour d'aujourd'hui, il faut stopper tout ça. Enfin, rien qu'au niveau des cosmétiques, il y a quand même de plus en plus de fabricants qui n'utilisent plus l'animal. Mais il faut vraiment stopper tout ça, parce que c'est une catastrophe dans les laboratoires.
Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qui est passée, j'en avais entendu parler, alors peut-être que je me trompe, qui justement interdisait pour les produits cosmétiques l'utilisation des animaux ?
C'est possible. Après, là-dessus, bon, moi, je fais déjà attention à ce que je prends. Donc, je sais qu'il y a de moins en moins de marques qui testent, hein, de toute façon. Mais il y avait eu une histoire où en Chine, ils sont obligés de tester sur l'animal. Donc, certaines marques, du coup, testent en Chine sur l'animal. Mais disent qu'elles ne testent pas en France.
Et du coup, comment on gère ça ? On interdit tout simplement ces marques sur le territoire français ?
Déjà, il faut clairement interdire l'expérimentation, les tests sur les animaux au niveau des laboratoires français. Et ensuite, s'il faut, pourquoi pas leur mettre un peu la pression en leur disant maintenant stop, faut choisir quoi. Donc oui, je sais qu'en Chine, il y a des marques qui continuent à tester sur l'animal.
Vous parlez, il faut arrêter toute expérimentation sur l'animal, même les expérimentations scientifiques qui sont plus sur le comportement ou sur justement de la recherche. Alors j'ai pas d'exemple comme ça, si le blob, puisqu'on en a parlé assez récemment dans les journaux. Donc on arrête. Alors le blob n'est pas un très bon exemple, étant donné que c'est ni un animal, ni un champignon, ni une bactérie, ou tout du moins une espèce de fusion de ces trois. Ni un végétal, pardon, pas bactérie, végétal. Ou tout du moins une espèce de fusion, puisque effectivement il possède des caractéristiques à la fois dans ces trois catégories. On arrête aussi ce genre d'expérimentation qui pourtant ne fait pas violence à l'animal. Je sais pas comment fonctionne le blob, donc je pourrais pas dire s'il y a une véritable violence, mais est-ce qu'on arrête vraiment toute expérimentation animale ?
En tout cas, dans l'idéal déjà, c'est stopper tout ce qui va faire du mal à l'animal. Même par exemple, les médicaments qu'on prend, on va pas se mentir que notre fameux vaccin, il a été testé sur l'animal. Donc voilà, ça déjà, faut vraiment dans la mesure du possible éviter tout ça. Ensuite, faut voir comment est l'animal. Moi, je connais pas vraiment ces choses-là, parce que l'animal, quand on parle de maltraitance, il y a pas seulement le fait de lui injecter des produits et de le tuer. Il y a aussi comment il se sent enfermé dans une cage. Il y a tout un ensemble de choses en fait pour dire si oui ou non il est maltraité.
Et qu'est-ce qui arrive après à ces animaux une fois qu'on les utilise plus en laboratoire ? Non mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont Enfin, est-ce que c'est des associations qui viennent les chercher ou est-ce que il y a d'autres conditions?
Alors, il y a des associations oui, qui récupèrent des animaux de laboratoire. Je n'ai pas de nom, mais j'ai entendu parler d'associations qui récupèrent ces animaux. Et les laboratoires viennent les chercher chez les particuliers qui, justement, font des petits à Pierre Larigot et les mettent gratuitement sur le bon coin. Il ne faut jamais mettre qu'on donne un animal. Parce que là, on est sûr que c'est les labos qui arrivent.
D'accord. Et peut-être une dernière question aussi. Alors, sur alors, ce serait plus sur l'exploitation du coup, des animaux tels que, je dirais, la corrida ou les combats de coqs. Est-ce que votre parti amènerait du coup, à abolir complètement ces activités liées aux animaux?
Alors ça, oui. Bon, en France, heureusement, on n'en a pas trop. Hein, les corridas, c'est plus en Espagne. Mais oui, ça c'est quelque chose qui... Ça n'a aucun intérêt, je suis désolée, mais à part de la culture, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, il faut tout arrêter.
Et pourquoi pas remplacer la corrida? Je vais un peu plus loin, mais pourquoi ne pas remplacer la corrida par justement une corrida, mais avec des machines électriques?
Ah bah oui, pourquoi pas? Du moment qu'on ne fait pas de mal à un animal, pourquoi pas? Si quelqu'un a envie de créer le truc, mais j'ai envie de dire, mais qu'il y aille, parce que oui, ça peut être envisageable. Du moment qu'on ne prend pas un animal, un être vivant pour le maltraiter, mais oui.
Et du coup, moi, je reviendrai sur une dernière question par rapport à l'expérimentation. Vous avez parlé de vaccin qui a été testé sur des animaux. Comment on pourrait du coup tester et s'assurer de l'absence de la dangerosité pour la population humaine d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique, tout du moins, si on le teste pas sur des animaux?
Alors là, je ne connais rien non plus. En labo, je crois que maintenant, ils commencent à tester de plus en plus sur le végétal. Après, les chercheurs arrivent à mettre en place des choses et je pense que si on veut, on peut faire en sorte, tout du moins déjà, de limiter au maximum l'usage de l'animal et peut-être par la suite même de l'arrêter complètement. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place et ça serait à la recherche de pouvoir trouver tout ça.
Très bien, je pense qu'on va s'arrêter là étant donné qu'il est pas très loin de 19h. Oui, on va mettre une petite musique. Qu'est-ce que tu as prévu comme dernière musique?
Alors, ça va être une musique de... Excusez-moi. Alors, ce sera Tori Lanez, plutôt Last Comet.
I call her my baby with love in my eyes. She tends to call me crazy. There's no surprise. She's on my radar, a 747. But when I spoke to her, I got no reply. She's not nice to fall in love, think twice. I put my love on ice. That's my baby. She's not mine, but mine enough, alright. She doesn't know my life. That's alright. So surprised.